Bonjour à tous. Et maintenant, tu m'entends? Ça marche? Non? Oui? Oui? Ah, il est là. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous encore après plusieurs semaines de déplacement. D'être chez nous, c'est un grand plaisir pour moi. Et j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Et vous avez tous suivi cette série sur l'Exode. On va continuer aujourd'hui jusqu'à le moment où nous avons fini la dernière semaine avec Farid, chapitre 8, verset 10, jusqu'à la fin de chapitre 10. J'espère que tu as tous lu les chapitres, parce que je ne veux pas lire tous entiers, mais heureusement, merci Cathy, mais je vais prendre juste quelques passages dessus. La troisième plaie est celle par laquelle nous commençons aujourd'hui. Et avec chaque plaie, un schéma similaire commence à se dessiner. Dieu s'attaque aux différents dieux des Égyptiens. Et nous commençons aujourd'hui au chapitre 8, versets 12 à 15. Est-ce qu'on peut pas? On a ce problème technique aujourd'hui. OK, c'est moi. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre son bâton et d'en frapper la poussière du sol pour qu'elle se change en moustique dans toute l'Égypte. Et ils obéiraient. Aaron étendit la main et frappa de son bâton la poussière du sol, et la poussière de tout le pays se transforma en moustiques qui se répandirent sur les hommes et les bétails. Les magiciens essayeront d'accomplir le même miracle par le sortilège et de produire des moustiques, mais ils n'y parviendront. Et les hommes et les bétails restent couverts de moustiques. Alors les musiciens dirent au pharaon, c'est le doigt de Dieu. Pourtant, le pharaon s'obstina et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit. Mais pourquoi cette plaie en particulier? Au quoi servait-elle? Sauf que irriter les gens avec les moustiques. Elle montrait que Dieu avait même le pouvoir sur les éléments de la nature, transformant la poussière en insectes. Les musiciens de la cour ne pouvaient pas faire cela. On a vu avec les deux premiers plaies, ils ont répliqué les choses. Mais maintenant, Dieu montre quelque chose. Il ne veut pas de le faire. Dieu a ce pouvoir sur les éléments de nature pour transformer les poussières en moustiques. Pourtant, Pharaon ne s'y est pas soumis. Dieu a donc rapidement infligé la plaie suivante aux Égyptiens. Il n'est pas à attendre pour les prochaines. Il dit à Moïse, allez chercher lui début matin, quand il va pour doucher, te baigner dans la rivière. Il allait très vite. Et la plaie qui arrive, c'est la plaie des mouches. L'Éternel dit à Moïse, va de bon matin, te placer sur le passage de Pharaon lorsqu'il sortira pour aller au bord de l'eau et dis-lui, voici ce que l'Éternel t'ordonne. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je vais lâcher les mouches venimeuses contre toi, contre tous tes autres fonctionnaires, contre tes sujets, et elles envahiront tes maisons, celles des Égyptiens en seront remplies et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, j'épargnerai la région de Goshen où demeure mon peuple. Les mouches ne l'infesteront pas, enfin, que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans ce pays. Jusqu'à présent, les Israéliens étaient touchés par toutes les plaies. Et maintenant, Dieu passe alors à la vitesse supérieure et déclare que ses jugements ne s'abattront que sur les Égyptiens et que son peuple restera totalement épargné par la plaie. C'est très important. Pourquoi ne pas avoir fait cette distinction entre les Israélites et les Égyptiens avant cela? Dieu voulait montrer sa puissance et sa gloire, non seulement aux Égyptiens, mais aussi aux Israélites. On oublie les Israélites souvent quand on lit ce passage. C'est Dieu contre les Égyptiens, mais c'est Dieu aussi, il a besoin de montrer sa gloire devant sa peuple. Parce que pendant 400 années, il était silencieux. Les gens ont habité en Égypte. Il prend un recul et les gens pensent, ah, c'est le Dieu de mon ancêtre, de mon arrière-grand-père. Il n'est pas vivant pour nous. Et on voit peut-être un éloignement sur les lois de Dieu. Les lois, il a déjà imposées sur son peuple. Ça, c'est pourquoi plus tard, on voit les 10 commandements qui arrivent. Les gens ont commencé de l'éloigner et Dieu a besoin de montrer à son peuple, « Je suis ton Dieu. C'est pour toi que je le fais. » Une fois qu'il a attiré leur attention, il leur épargna les plaies et le jugement sur les Égyptiens et leur permet de voir sa gloire. Dieu l'utilise ce moment qui pouvait sembler insensé, pour renforcer la foi des Israélites. Dieu utilisa ces épreuves pour faire grandir le foi et le montre sa gloire. C'est une leçon importante que nous devons également apprendre. Romains 8, 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves dans notre vie, nous passons par des cycles où nous nous appétions sur notre sort. C'est un instinct et une réaction humaine et naturelle. Et plus le défi est grand, plus nous sommes susceptibles de nous appétioyer sur notre sort. Plus nous sommes confrontés à des épreuves, plus nous sommes nous finissons par nous sentir désolés pour nous-mêmes. Notre égard change. On ne fasse pas Dieu, mais nous-mêmes. Nous avons cette tendance à nous replier sur nous-mêmes et nous tourner vers l'intérieur, à nous placer au centre de la situation, au lieu de nous tourner vers Dieu et de lui permettre de prendre le contrôle. En nous concentrant sur lui, quelle que soit la situation, nous renforçons notre foi et nous nous permettons de voir sa gloire dans ces moments-là, car ses plans pour nous sont vrais. Cela signifie-t-il que Dieu nous soumette à des preuves pour nous tester? Non. La vie suit son cours. Disons-le simplement. Cependant, ce qui intéresse le plus Dieu, c'est notre réaction face à cela. Avons-nous appris ce qu'il nous a enseigné? L'avons-nous incarné et approprié? Et lui, avons-nous permis de se manifester dans nos vies, quelle que soit la situation? Si nous le faisons, sa gloire brille à travers nous. C'est dans ces moments de trouble, de tourment, lorsque les choses semblent hors de contrôle, lorsque nous nous remettons en question, que nous devons nous appuyer sur la souveraineté de Dieu et non sur nous-mêmes. Pour revenir sur au plaie, Pharaon a demandé à Moïse de faire disparaître la plaie de mouche et a accepté que les Israélites adorent Dieu, mais uniquement sur son regard. Vous voyez, il ne faisait pas confiance aux Israélites, qui étaient des esclaves importants pour les Égyptiens, et donc l'absence aurait nuit à leur empire. Il voulait continuer à les contrôler malgré sa reconnaissance de la puissance et de la supériorité de Dieu. Et sans surprise, il empêche finalement les Israélites de partir. Et Dieu envoie alors une cinquième plaie, une plaie qui tue toutes les bétails du pays. Chapitre 9, versets 1 jusqu'à 5. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon et déclare-lui. Voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses encore de le laisser partir, si tu persistes à le retenir, l'Éternel interviendra contre ton bétail qui est dans les champs, contre les chevaux, les ânes, les chameaux, les gros et les petits bétails. Elle leur enverra une grave épidémie. Mais l'Éternel fera une différence entre le bétail des Israélites et celui des Égyptiens. Aucune bête appartient aux Israélites ne mourra. L'Éternel fixa une échéance en disant, « Demain, je mettrai cela à exécution dans le pays. » Cette fois-ci, Dieu montre sa souveraineté sur toute la création et sa capacité à protéger son peuple tout en jugeant ses oppresseurs. Cela demande également la relation d'alliance entre Dieu et son peuple, dont il est à la fois le protecteur et le libérateur. Et c'est quelque chose que Dieu a fait à maintes reprises pour chacun d'entre nous. En fait, son alliance avec nous s'est concrétisée lorsqu'il a sacrifié son Fils unique afin que nous puissions devenir ses enfants. Grâce au sacrifice de son Fils, nous avons été protégés de la damnation éternelle et nous avons été délivrés du mal pour avoir la vie éternelle. Nous avons été sortis des ténèbres et amenés dans la lumière. Ce fleuve était également particulièrement difficile pour les Égyptiens, car ils adorent également de nombreux types d'animaux. En substance, Dieu a donc également tué leur Dieu. Quelle meilleure démonstration de son autorité divine. Ils ont soumis à les bétails. Et Dieu a dit non. Je suis souverain. Il n'y a aucun Dieu sur cette terre plus grande que moi. Et pourtant, le Pharaon n'a toujours pas laissé partir les Israélites. Et Dieu a donc envoyé le 16e plaie, les ulcères purulents. Et comme auparavant, les Israélites n'ont pas été libérés. Je voudrais lire ici uniquement le verset 12. Mais l'Éternel fit que le Pharaon s'obstine, de sorte que celui-ci n'écouta pas les deux hommes, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Ici, ce n'est pas le Pharaon qui a le cœur endurci, mais Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Nous avons entendu parler des cœurs endurci dans le Nouveau Testament. Hébreux 3, verset 8 dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Marc 8, 17 et 18 nous parle des conséquences de cela. Conscient de la discussion de Jésus le demanda, pourquoi parlez-vous de ne pas avoir de pain? Ne voyez pas encore et ne comprenez-vous pas encore? Votre cœur est-il endurci? Avez-vous des yeux et ne nous voyez pas? Des oreilles et n'entendez-vous pas? Et ne nous souvenez-vous pas? Le cœur endurci du Pharaon, à cause de son arrogance et de son orgueil, ne lui donnait pas la capacité de comprendre et de voir la vérité. C'est ça que Dieu a fait. Dieu a endurci le cœur de Pharaon en se réveillant simplement à lui. Il a réveillé sa puissance, sa suprématie, son amour pour son peuple, sa haine du péché, etc. à travers tous les signes de les plaies. La simple révélation de cela, dépourvu de la grâce illuminatrice, endurcit les cœurs pécheurs. Dieu ne souhaite la perte de personne. Il a donné au Pharaon de nombreuses occasions de se repentir. Mais son cœur dépravé et incrédule s'est rebellé contre la connaissance de Dieu et a supprimé la vérité dans l'injustice. le conduise à empêcher les Israélites de partir. Il a refusé de reconnaître la suprématie de Dieu, car il ne pouvait pas reconnaître la gloire de Dieu qui se réveille. Et l'importance de ce pays n'échappe pas aux Égyptiens, car la santé était considérée comme un don des dieux, et la malade comme un signe de leur mécontentement. Cela aurait été vu comme une manifestation physique de la décadence spirituelle résultant de la rébellion contre Dieu et comme un rappel des conséquences de s'opposer à sa volonté. Il n'y a plus de discussion. Dieu envoya rapidement la septième plaie, la grêle. Dieu détruisait lentement l'Égypte et la mettre à genoux. Les Égyptiens n'ayant plus de bétail, Dieu détruit rapidement toutes les récoltes à l'aide de la grêle, ce qui provoque une grave famine dans tout le pays. La raison pour laquelle les Israélites s'étaient initialement installés en Égypte à cause de la famine, autre part. Car cette fois-ci, je vais déchaîner toutes sortes de plaies contre ta personne, contre tes hauts fonctionnaires et contre tes sujets, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. J'aurais pu tout de suite te frapper de la peste, ainsi que tes sujets, et tu aurais déjà disparu de la terre. Mais voici pourquoi je te laisser en vie. C'est pour te faire voir ma puissance et pour que ma renommée se reprenne par toute la terre. Et la réponse du pharaon était intéressante. Il rappelait ce fois. Avant, c'est Moïse et Aaron qui allaient au pharaon. Ce fois, il a appelé le devenir et dit, ça c'est verset 27, cette fois-ci, je reconnais que j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste. Moi et mon peuple, nous sommes coupables. Priez l'Éternel de faire cesser le tonnerre et la grêle, et je vous laisserai partir. On ne vous retiendra pas davantage. Mais, malgré tout cela, il est revenu à son incrédulité et a renié sa promesse. Cela nous rappelle nos propres réactions. Combien de fois nous avons-nous repenti de nos péchés de manière superficielle? Souhaitons que le temps monte, cesse, mais continuons à pécher dès que nous en avions l'occasion. Combien de fois repensons-nous de nos péchés, prétendons vouloir aller de l'avant, mais continuons finalement à pécher? C'est exactement la même chose. Nous nous exposons à davantage de tourments. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, nous devons le faire avec un cœur pur et demander le pardon complet et pas seulement pour passer à autre chose ensuite. Dieu ne peut pas nous libérer de nos péchés si nous ne sommes pas sincères. De Corinthiens 7, mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ce temps, purifions-nous de tout ce qui corrompt, de le corps et l'esprit, pour mener ainsi une vie pleinement sainte dans la crainte de Dieu. Et c'est ainsi que suivit la huitième plaie, les sauterelles. Moïse annonce l'arrivée de cette plaie si le pharaon ne les laisse pas partir. Les fonctionnaires supplient tout le pharaon de laisser partir les Israélites, car l'Égypte est désormais ruinée. Le pharaon leur dit donc qu'il peut partir, mais tente de retenir les femmes et les enfants ainsi que les animaux. Moïse refuse et le plaie de sauterelles s'abat. Il reste quoi que soit dans le pays, cela aurait été dévoré à présent. J'ai une image des gâtes que les sauterelles peuvent causer au travers simplement un champ. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a rien qui reste. Ils mangent toutes les choses vertes et c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé. Le pharaon demande à Moïse de prier une fois de plus pour ses péchés. Mais cela reste superficiel. Nous voyons ici le problème. En tant qu'êtres humains, nous pouvons être incroyablement obstinés dans nos vies. Et il y a certaines choses auxquelles nous ne voulons tout simplement pas renoncer et donner à Dieu la suprématie dans nos vies. Combien d'entre vous se sont tenus devant Dieu et lui ont dit « Je te donne toute ma vie ». Tout sauf ceci, ça, et peut-être ça, et cela. Parce que ça me donne de plaisir, ça, j'ai pas de confiance en toi, etc., etc., etc. Et lorsque Dieu nous met au défi et que nous sommes convaincus par nos actions, nous pouvons lui abandonner une chose. Mais nous essayons de conserver dans notre vie les choses que nous voulons contrôler. Et nous ne lui donnons pas la liberté sur nos vies. Et parce que nous ne remettons pas les choses de notre vie à sa suprématie et à sa gloire, nous finissons par souffrir d'une manière ou d'une autre. C'est notre choix qui en est la cause. C'est notre choix. Nous connaissons et voyons la puissance de Dieu en toutes choses. Mais voulons-nous vraiment nous soumettre à lui en toutes choses? C'est ainsi que Dieu a provoqué l'avant-dernière plaie, la plaie des ténèbres. Une plaie qui a duré 3 jours. Il est intéressant de noter qu'elle a duré 3 jours. Car cela correspond au temps pendant lequel Jésus a combattu le diable et vaincu les ténèbres. Cette plaie était une attaque directe contre le Dieu soleil ray. Probablement l'un des dieux les plus importants des Égyptiens, montrant la suprématie de Dieu sur lui, affirmant qu'il seul est le créateur et le soutien de l'univers. Après 3 jours pendant lesquels les ténèbres étaient si intenses qu'il était impossible de voir qui que ce soit dans l'obscurité, le pharaon appelle Moïse et Aaron et accepta de laisser partir les Israélites. Mais il ne voulait pas qu'ils emmènent avec leur bataille dont il avait besoin pour faire des sacrifices à Dieu. Et sur ce, le pharaon empêcha une nouvelle fois leur départ. Ce que les ténèbres nous enseignent aujourd'hui, c'est que lorsque nous n'acceptons pas sa vérité divine dans toutes nos vies, nous sommes plongés dans les ténèbres spirituelles. Lorsque nous ignorons ce que Dieu nous enseigne, nous révèle et nous demande, nous rejetons en fait sa vérité. Et la conséquence est que nous commençons à embrasser les ténèbres dans nos vies. Sa vérité apporte la lumière et la vie, tandis que les ténèbres apportent la mort. Ça, c'est ce que le monde a célébré cette semaine. La ténèbre. Nous célébrons la lumière et la vie. Est-ce qu'on veut de rester dans les ténèbres ou dans sa lumière? Je suis sûr que nous sommes tous impatients de savoir ce qui va passer ensuite. Mais reviens la prochaine fois, le 23 novembre, hein? Pas la semaine prochaine, mais c'est le 23 novembre. Avant que je finisse, je voudrais juste souligner quelques points à retenir. C'est dans les moments difficiles que nous devons nous tourner vers celui qui nous donne la vérité et ne pas nous concentrer sur nous-mêmes. Cela nous permet de voir sa gloire se manifester dans nos vies. Deuxièmement, Dieu est notre protecteur et notre libérateur de toutes choses et pour toujours. Troisièmement, nous devons examiner notre cœur. Examiner ce à quoi nous nous accrochons et ce que nous voulons contrôler. Dieu veut que nous lui donnions notre vie, que nous nous consacrions à lui afin qu'il puisse nous donner la vie et la vie en abondance, d'être libre. Mais lorsque nous nous accrochons à certaines parties de notre vie, en particulier au péché, nous ne pouvons pas connaître la véritable liberté. Soyons sincères lorsque nous demandons pardon pour nos péchés. Soyons sincères dans nos intentions et ne revenons jamais en arrière. Marchons dans la liberté que Dieu nous a donnée et ne vivons pas dans l'ombre d'une liberté limitée et d'un esclavage qui pourrait finalement détruire le monde que nous entoure, comme l'ont vu les Égyptiens. Merci beaucoup.